Simplement, j'ai laissé venir à moi les idées qui me venaient à propos, par exemple, de l'expression « je t'aime ».
Ça fait réfléchir, l'émission philosophique de Radio Campus Amiens.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Amiens 87.7 FM et j'ai le plaisir de vous annoncer la création d'une émission consacrée à la philosophie, ouverte à tous les esprits curieux que j'ai l'honneur d'animer. Cette émission s'intitule « Ça fait réfléchir », un nom drôle ou bien sérieux, tout dépend de comment on le prononce. Cette émission sera disponible sur radiocampusamiens.fr et sur le DAB+. Pour me présenter très brièvement, je m'appelle Julien et je suis actuellement doctorant et jeune professeur de philosophie dans l'Académie d'Amiens. Je vous proposerai donc un épisode une fois toutes les deux semaines dans lequel nous ferons de la philosophie ensemble. Parfois je serai seul et ce sera donc seulement entre vous et moi. Parfois je serai aussi accompagné d'un ou de plusieurs intervenants qui ne sont pas forcément des philosophes, des professeurs, etc. Mais qui peuvent avoir des activités très variées et très différentes de la réflexion philosophique. En tout cas, en apparence. Puisque notre objectif dans cette émission sera de montrer qu'il y a de la philosophie un peu partout, qu'elle se promène dans toutes les têtes bien faites. Qu'elle se balade entre vous et moi, qu'elle n'est pas uniquement réservée aux élèves de terminale ou aux professeurs, au lycée ou à l'université, aux livres et aux revues spécialisées. Nous verrons donc ensemble que la réflexion philosophique peut surgir d'endroits où l'on ne s'y attend pas forcément, où l'on n'a pas l'impression de la rencontrer, et essayer de voir ce qui peut nous intéresser pour notre réflexion intime ou collective. Pas d'inquiétude, si vous avez des souvenirs, mauvais ou pas, de vos cours de terminale, ou bien que vous n'en ayez jamais fait, nous ferons en sorte de découvrir ça tranquillement. Aussi, je ne prétends pas du tout vous délivrer une vérité toute faite sur les sujets que nous allons traiter, ou bien vous transmettre une parole pleine de sagesse. Si l'on associe souvent la philosophie aux individus de grande sagesse, cette vision est aujourd'hui assez démodée, et je n'aurai pas la prétention de vous apprendre quelque chose qui ne peut pas être critiqué. Justement, cette émission saura, je l'espère, contribuer modestement à la réflexion, à la pensée libre, qui cherche à s'ouvrir à d'autres manières de voir le monde et les choses. Bienvenue donc, chères auditrices, chers auditeurs, dans cette émission un petit peu particulière qui, pour le moment, doit vous paraître bien énigmatique. Rentrons donc dans notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour le pilote de l'émission, ce sera seulement entre vous et moi. Pour commencer, je vais vous parler un peu, en m'efforçant que ça ne donne pas trop l'effet professeur qui parle à ses élèves, ou bien l'effet leçon à écouter religieusement. Tout d'abord, donc, nous allons essayer de définir ce que c'est que la philosophie, même si ça n'est pas une mince affaire, et beaucoup s'y sont essayés et s'y essaient encore. Et ensuite, nous allons identifier ensemble quelques préjugés sur la philosophie que l'on peut entendre dans la vie de tous les jours. Pour celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler, concrètement, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Et pourquoi en faire? La philosophie, c'est d'abord un langage, avec son vocabulaire assez spécifique. En philosophie, on parle surtout par concept, c'est-à-dire des généralités, ce qui peut paraître très vague, voire complètement inaccessible si l'on n'a pas été suffisamment préparé à l'entendre. Par exemple, en philosophie, notamment en classe de terminale, on aborde des choses que l'on connaît toutes et tous, que l'on a toutes et tous vécues, comme des situations d'injustice, des moments dans lesquels nous sommes joyeux, des instants de contemplation, et pour peut-être rentrer en profondeur, on appellera ça justice, ou bonheur, ou art. Que l'on veille ou que l'on dorme, que l'on travaille ou que l'on ne travaille pas, ce que l'on vit au quotidien nous invite parfois à interroger ce que nous pourrions appeler l'évidence des choses. C'est évident que ce qui est juste l'est pour telle raison, parfois très personnelle. C'est évident que je suis joyeux parce que j'ai passé une bonne soirée avec des amis. C'est évident que je contemple les choses qui me plaisent, comme des œuvres d'art. Quand on commence à envisager que l'évidence des choses empêche de voir les choses autrement, que l'on réalise que d'autres manières de les voir sont possibles, alors on ouvre une brèche. Une brèche dans la tête, et on peut alors commencer à réfléchir en philosophe. Et là, pas besoin de vocabulaire compliqué, puisque la philosophie, avant d'être un vocabulaire, c'est une démarche, un éclair dans la tête, une fulgurance. Le chemin entre ce qui paraît évident et ce qui n'est plus tout à fait est assez variable, ça peut varier. Ça peut surgir d'un coup, dans l'étonnement, ou bien ça peut prendre un peu plus de temps, ça dépend du rythme de chacun. Pour reprendre l'un de nos exemples, si l'on se rend compte que ce que je pensais être juste n'est pas forcément juste par rapport à la loi du pays où je vis, cela peut m'interroger et m'amener à cette question. Est-ce que c'est la loi qui dit ce qui est juste? Ou bien est-ce que je suis capable, moi, toute seule ou tout seul, de définir ce qui est juste ? Cette question est complètement philosophique, dans le sens le plus noble du terme. Et je suis persuadé que la plupart d'entre vous s'est peut-être déjà posé des questions de ce genre. Si nous poussons un peu plus loin, nous sommes conduits à interroger d'autres choses. Le sens même du mot « justice ». C'est la même chose pour les mots tels que « bonheur », « art », « vérité » et bien d'autres encore. Et pour la petite anecdote, certains philosophes pensent même que l'on peut réfléchir sur tout et n'importe quoi, même les fonds de verre, les poils et même les miroirs. Et l'on se rend vite compte qu'il est très difficile de se mettre d'accord sur une définition unique de ces mots très généraux. Ce qui ne veut pas dire que parler de justice ou de bonheur est absurde, bien au contraire. C'est en réfléchissant ensemble, ou bien en pensant seul chez soi, à son bureau, que l'on peut proposer de nouvelles manières de considérer ce qui est juste, ou de considérer ce qui est heureux. La philosophie, c'est donc tout d'abord un langage qui nous éclaire. Ça dévoile l'évidence des choses dans leur lumière, mais à trop en faire, ça peut peut-être nous aveugler. Il y a plus de 2500 ans, durant l'Antiquité, on a donc appelé philosophie cette capacité à remettre en question les évidences, à réfléchir en solitude ou dans le collectif, sur des thèmes extrêmement variés et jamais clairement définis, laissant peut-être plus de questions que de réponses. Un petit peu d'étymologie s'impose. Le mot philosophie est l'association de deux mots du grec ancien. Le premier mot, philo, abréviation assez courante, pour parler de la philosophie, signifie amour. Tandis que le mot zophie, qui a donné le prénom que l'on connaît bien, signifie sagesse. La philosophie, dans son sens d'origine, c'est donc l'amour de la sagesse. Pourquoi l'aimer alors qu'on pourrait la posséder ? Pourquoi juste l'aimer alors qu'on pourrait l'avoir juste pour nous ? Qui ne voudrait pas être sage ? Encore des questions, voyez-vous. Nos exemples de tout à l'heure, sur la justice, le bonheur, etc., nous ont montré, je crois qu'il est très difficile, ou peut-être même impossible, de définir la justice et le bonheur. Quelqu'un de sage, à l'époque de la Grèce antique, c'est quelqu'un qui prétend posséder une connaissance définitive sur les choses, une connaissance que personne ne pourrait remettre en question. Le philosophe, lui, considère que cette sagesse ne peut pas s'atteindre, que l'on ne peut que l'aimer. L'étymologie du mot est séduisante parce qu'elle refuse toute forme de possession, comme lorsque l'on aime un être humain. On ne le possède pas. C'est pour ça, encore une fois, que cette émission ne peut pas aboutir à une connaissance bien faite et définitive. Mais nous sommes là avant tout pour réfléchir, et nos réflexions apporteront peut-être bien plus de questions que de réponses. Évidemment, ce n'est pas qu'en philosophie que l'on se pose des questions sur les choses, sur leur connaissance, sur leur définition, puisque les sciences, comme les mathématiques, la physique, la biologie ou bien les sciences humaines, comme la psychologie ou la sociologie, ont aussi cette démarche de réflexion. Mais la réflexion philosophique n'a pas de barrière bien délimitée. C'est pour cela que quand nous réfléchissons en philosophe, nous pouvons embrasser tous les sujets, et qu'elle exige moins de spécialisation. Un mathématicien ou un physicien, pour travailler sur leur sujet, ont besoin d'un vocabulaire très spécifique, que l'on peut parfois appeler « jargon », ce qui est un peu péjoratif. La réflexion philosophique, elle peut venir de n'importe où et n'importe quand, sans crier gare et sans avoir besoin de termes spéciaux. Les termes que la philosophie propose, que l'on aura tout à fait l'occasion de découvrir par la suite, qui sont aussi en quelque sorte du jargon, permettront d'affiner la réflexion, de la guider, de l'éclairer. Mais la fulgurance, l'éclair de la réflexion, n'a pas besoin de science pour se déclarer. Et le langage de tous les jours permet de toute façon d'exprimer cette réflexion. Maintenant, nous allons aborder la philosophie sous un autre angle. Nous allons essayer de considérer quelques préjugés qui gravitent autour d'elle et essayer de comprendre en quoi, finalement, elle pourrait bien poser problème, cette philosophie. Aussi intéressante peut-être cette manière de considérer ce que nous croyons, ce que nous pensons et toutes ces évidences, la philosophie a été mal considérée pendant très longtemps et encore aujourd'hui. Si je veux rappeler cela, ce n'est pas pour prêcher ma paroisse, pour défendre coûte que coûte mon métier, parce que j'en ai fait mon métier, mais pour que nous essayions de voir ensemble ce qu'est un préjugé. En effet, la philosophie n'a pas eu que des amis, alors qu'elle est censée être pure amitié, mais aussi des ennemis. De toute façon, on n'a de préjugés que sur ce que l'on ne connaît pas. Premier préjugé donc, la philosophie n'est pas assez concrète et empêche de travailler. Dès l'Antiquité, la philosophie, un art noble pour certains, était considérée comme étant une trouble fête dans la ville, et qu'elle pourrait pervertir la jeunesse, naïve et pas encore mûre. D'ailleurs, l'un des philosophes de l'Antiquité que l'on connaît presque tous, à savoir Socrate, a été condamné en justice pour avoir perverti la jeunesse athénienne. En tout cas, ça faisait partie des accusations qu'on lui avait portées. Si les gens commencent à penser, à réfléchir, sont-ils encore capables de travailler, d'aller faire leur travail ? Il faut qu'ils fassent autre chose, il faut qu'ils fassent quelque chose de leurs mains et pas de leur tête. Ça ne sert pas à grand-chose. La première critique que l'on peut adresser à la philosophie, c'est que, en effet, elle ne produit rien. Elle ne sert pas à augmenter les richesses d'un pays, elle ne permet pas de construire des maisons, et elle n'est pas efficace dans la pratique. Comment une réflexion qui se passe, ou bien même plusieurs nouvelles idées qui sont écrites, publiées et diffusées, pourrait-elle bien avoir un impact sur la réalité et créer quelque chose de concret ? En fait, si l'on dit que la philosophie ne sert à rien, on pourrait très bien dire aussi que l'art et le bonheur ne servent à rien, alors que ce sont des choses qui ont toujours paru nécessaires pour nous. Tout dépend de ce que l'on entend par « servir à quelque chose ». Est-ce que ça doit seulement être pratique, avoir des effets concrets dans ce qui nous entoure, ou bien est-ce que cela peut avoir des effets sur comment l'on voit ce qui nous entoure ? On ne peut certainement pas tout réduire à des questions économiques ou bien à du travail manuel. Deuxième préjugé, la philosophie est trop abstraite. La philosophie est aussi connue pour être un peu dans les nuages. On l'associe à une réflexion complètement hors sol, parfois perchée, qui serait beaucoup trop abstraite et qui serait de ce fait tout à fait inaccessible. C'est vrai que se poser constamment des questions, remettre en question toute forme d'évidence, questionner tout ce qui nous entoure peut paraître bien futile et bien perché. Ce préjugé colle à la peau de la philosophie depuis des siècles. En plus de ne servir à rien de concret, elle ne fait que nous emmener dans des contrées de l'esprit beaucoup trop éloignées de la réalité des choses. Ce préjugé est aussi alimenté par son jargon difficile d'accès. Mais comme le jargon des astronautes est tout aussi difficile d'accès parce que je ne suis pas astronaute. C'est aussi une histoire de vocabulaire. Mais tout de même, les choses sur lesquelles on réfléchit le plus sont peut-être les choses que l'on peut encore mieux considérer. La question que l'on peut se poser pour dépasser ce préjugé, ça peut être la suivante. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas aller un peu plus loin dans la réflexion et apprécier les choses dans plus de diversité, avec d'autres approches, ou bien rester seulement au niveau de l'évidence, ce qui, d'une certaine façon, est très confortable, bien évidemment. Essayez de répondre à cette question, et même ne serait-ce que l'avoir en tête, à savoir, est-ce qu'on fait de la philosophie ou est-ce qu'on n'en fait pas, c'est d'ores et déjà faire de la philosophie. Bienvenue à vous, donc, cher philosophe. Reprenons un exemple. Je peux très bien me contenter de lire des articles de loi et me dire que tout ce qui est écrit là est juste. Donc je lis les articles de loi et je me dis, bon, tout ce qui est écrit là est juste, je m'y fie aveuglément et je me dis, bon ben, comme ça je serai un bon citoyen. Mais si je me rends compte qu'un article est complètement en désaccord avec ce que je pense, ma réflexion peut commencer alors à se balader, à explorer ces fameuses contrées de l'esprit, avec des concepts difficiles ou pas, et là, je fais de la philosophie. Cela n'est certainement pas une perte de temps, et le but de l'émission est encore de s'interroger là-dessus. Et même, cerise sur le gâteau, j'ai envie de vous dire, s'interroger sur l'importance, ne serait-ce que l'importance de la philosophie, c'est encore une fois faire de la philosophie. Troisième préjugé. On ne fait de la philosophie qu'au lycée, à l'université et dans les livres. Ce préjugé est tenace et fait intervenir des différences d'ordre social et peut-être même politique. Si l'on a déjà entendu parler de la philosophie, on peut se l'imaginer comme souvenir du lycée, de la classe de terminale générale ou technologique, et aujourd'hui, après une réforme des filières aussi en première, car la philosophie est absente des filières professionnelles et des CAP, absence que l'on peut certainement interroger, ce qui a déjà été fait d'ailleurs. La philosophie est aussi présente dans les études supérieures. Il y a une filière philosophie à l'université, que j'ai moi-même suivie. On en fait en classe préparatoire, dans les grandes écoles, etc. Voici donc les fameuses différences sociales. La philosophie serait réservée à une certaine partie de la population en France et non à tous. Il semble toutefois important de revenir sur le caractère institutionnel de la philosophie comme discipline scolaire. La manière dont cette discipline est inscrite dans certaines filières et non dans d'autres n'exclut pas l'activité philosophique dans sa totalité. Parce que chaque individu, en fait, peut faire de la philosophie, ce que l'on a déjà essayé de montrer tout à l'heure, avoir une réflexion sur ce qui l'entoure, sans pour autant avoir fait les études nécessaires. Ce que l'on trouve toutefois dans ces études, dans la philosophie comme discipline, ce que l'on ne peut pas nier, évidemment, c'est une formation, un langage et une certaine manière d'orienter sa pensée. Pour le reste, l'activité philosophique proprement dite peut s'en passer. Je suis convaincu que je peux croiser dans la rue quelqu'un dont les fulgurances philosophiques sont tout à fait impressionnantes alors qu'il n'a pas sur lui ou dans sa tête ce que l'on appelle le bagage ou même qu'il n'ait pas lu de philosophie lui-même. Remarquer cela, ce n'est évidemment pas remettre en question les formations proposées au lycée ou à l'université, mais c'est une manière en quelque sorte de mettre en évidence peut-être des écarts. Des écarts qui sont réels du point de vue de la formation, mais qui du point de vue de la force et de la pertinence de la réflexion ne le sont pas, ou que très peu. Si l'on admet que l'on ne fait de la philosophie que dans les livres, en lisant des ouvrages savants, en écoutant les enseignants, non seulement l'émission que je vous propose n'aurait alors aucun sens, mais ce serait également et surtout minimiser la réflexion que certains peuvent produire et proposer aux autres. Et si l'on empêche les gens de faire de la philosophie, il y a là un problème majeur. Encore une fois, le but de l'émission est de montrer le contraire. Non pas partager un savoir, mais donner ou redonner le goût d'une réflexion déjà présente. C'est ainsi, chères auditrices, chers auditeurs, que se termine le premier épisode de l'émission « Ça fait réfléchir ». Nous nous retrouverons la prochaine fois, si tout se passe bien, avec un intervenant afin qu'il nous partage ses propres réflexions, ses propres expériences, et que nous retrouvions cette chose étrange dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui, qu'est la philosophie. Je vous remercie pour votre écoute et vous pouvez toujours retrouver cette émission sur le site de radiocampusamiens.fr et sur le DAB+. Au plaisir de vous retrouver et à bientôt.